L'INALCOLIC, c'est un type d'étudiant qui passe des années à l'INALCO. Ça peut être quelqu'un qui est enseignant après éventuellement, mais c'est aussi quelqu'un qui enchaîne les langues qui ne viennent pas forcément des mêmes continents.
Être inalcoolique, comme d'autres sont alcooliques, accros, dépendants à l'apprentissage des langues étrangères. INALCO, du nom de cette institution française créée en 1793 et sise rue de Lille, en plein cœur de Paris, dans le quartier historique des Ministères. L'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris, que longtemps on appela Langzo, faire Langzo, c'était chic, exotique et excitant. Bonjour Marjorie Bertin.
Bonjour Pascal.
Alors, sans plus de raison que la curiosité, vous allez nous proposer un voyage dans les couloirs, bibliothèques et salles de classe de cette tour de Babel, où d'année en année, on enseigne de nouvelles langues.
Oui, et ça ne s'arrête pas. On est à 103 langues que l'on peut apprendre aujourd'hui à l'INALCO. Les langues zo ont commencé avec le turc et l'arabe, d'où leur nom, pour des raisons diplomatiques et commerciales. Et puis, au fil des siècles, beaucoup, beaucoup de nouvelles langues sont arrivées. Les étudiants viennent du monde entier. On apprend la langue et le reste, la civilisation, la géopolitique. Et pour l'anecdote, Mona Zoitschel, que l'on vient d'entendre, elle est à l'INALCO depuis 27 ans, Pascal.
Elle est donc inalcoolique. C'est un temple du savoir, finalement, comme les la Sorbonne, l'Académie française, et puis tout cela à quelques centaines de mètres du musée d'Orsay et du Louvre. Et pourtant, Marjorie, j'ai le sentiment que c'est un lieu un peu mystérieux, un peu discret.
Oui, parce qu'en fait, il y a deux grands sites de l'INALCO aujourd'hui. Il y a le site sur lequel sont concentrés la plus grande partie des cours, dans le 13e arrondissement de Paris. Et puis ce site historique où se concentrent les activités des chercheurs et des doctorants, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. C'est un grand hôtel particulier du XVIIIe siècle, tout près de la Seine. Au départ, c'était sûrement la maison d'un noble, mais cette école y a gravé ses lettres de noblesse jusque dans son sol. Alors j'ai visité les lieux avec Pierre Lénard, directeur général des services de l'INALCO.
Ce qui est un privilège, parce que c'est pas un lieu public d'habitude. On ne le visite pas, on n'a pas un ticket pour rentrer.
Il faut être en thèse. Donc je l'ai visité avec Pierre Lénard, directeur général des services, et Sarah Cadorel, qui est la responsable des archives.
Et ça résonne un tout petit peu parce que c'est haut de plafond.
On a fait 2 ans de travaux de réhabilitation du site, qui n'avait pas été rénové depuis 1935. Donc on a une partie qui a été complètement rénovée, donc une partie qui était moins noble, qui est donc à l'ouest du bâtiment. Et le reste, on a conservé tous les éléments du patrimoine, et notamment les éléments qui rappellent l'école. Donc là, vous avez des mosaïques qui marquent le sigle initial des langues zo. Donc c'est un L stylisé avec un O au milieu.
Et elles datent de quand, ces mosaïques ?
Alors celle-ci, elle date du 18e, parce qu'en fait, l'aile dans laquelle nous sommes, en fait, si on raconte un peu l'histoire, au départ, c'est un hôtel particulier, qui est l'hôtel de Bernage, qui a été construit au XVIIIe siècle avec 2 ailes seulement. Une aile où l'on est là et l'aile qui est ici. Ensuite, se sont rajoutées les 2 autres ailes qui sont en face au XIXe siècle, donc 1 siècle plus tard, en conservant toujours l'esprit d'origine de l'architecture initiale. Et les éléments les plus marquants en termes d'identité et de patrimoine de l'INALCO se retrouvent dans les 2 ailes d'origine. En fait, l'école a été fondée en 1793, donc en l'an 3. Mais on peut dire que la première origine de l'école telle qu'elle s'est développée au XXe siècle, elle date de la Révolution. Avec l'ouverture sur plusieurs langues, avec un administrateur qui va vraiment impulser un esprit d'école, qui va vraiment travailler. Alors l'idée au départ, c'est de former des traducteurs, des interprètes, dans le cadre de l'expansion coloniale en fait de la France, qui vont accompagner les marchands de commerce et accompagner aussi la diplomatie pour traduire les différentes interactions qu'il y a avec le nouveau monde que la France est en train de conquérir en fait. Et alors vous avez non seulement les mosaïques, mais on a aussi les frontons que l'on voit un petit peu moins. Donc ce sont des scènes en fait qui représentent à chaque fois les langues en fait qui sont enseignées.
qu'est-ce que c'est, Saracadorel?
Ce sont des représentations en bas-relief des langues qui sont enseignées à l'INALCO. Donc là, on voit qu'il y a marqué Indochine. Alors après, il y a marqué Orient aussi, je crois. Donc c'est un peu des représentations stylisées des activités de l'INALCO à l'époque.
Donc des livres, des parchemins, on voit qu'il y a un globe.
Un globe, des livres. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu... parce que le palais est marqué par une décoration qu'on a qualifiée d'orientalisante. Donc on voit qu'il y a pas mal de croissants, des palmes, des rosaces, ce genre de choses. C'est un peu le style orientalisant du bâtiment.
On va peut-être continuer par là. Voilà. Par contre, là, on a encore... Dans la ferronnerie, on a langues orientales vivantes. Donc le L, O et le V. Ça a été l'appellation de l'école à un moment donné. Et à chaque fois, les différents administrateurs sont attachés à inscrire dans le bâtiment lui-même l'appellation ou l'origine de l'école, en fait. Donc on a un petit peu dans tout le bâtiment des éléments qui rappellent, en fait, soit les langues enseignées, soit les civilisations, soit simplement le logo même de l'école.
Donc cet escalier, il mène où ?
Alors cet escalier mène aux étages. Alors avant qu'il y ait un ascenseur, c'était l'escalier principal pour accéder aux étages supérieurs. Où dans les étages supérieurs, on avait une particularité, c'est que l'administrateur et, on va dire, le gestionnaire du site avaient ses appartements dans l'école. Donc au départ, les étudiants étaient, les élèves en fait, étaient au nombre d'une vingtaine à peu près. Et les étages du haut étaient consacrés à la salle à manger, aux appartements privés de l'administrateur et du gestionnaire du site. Et la dernière gestionnaire du site à avoir été logée ici, c'était Jeanne Fiat, qui était la secrétaire générale à l'époque, et elle a quitté les locaux en 87. C'est pourquoi, quand on va passer dans certaines salles, on va voir des évocations plutôt de salles à manger, plutôt de salles de réception, etc., que l'on a transformées aujourd'hui soit en salle de cours, soit en salle de réunion, soit en salon de réception.
N'habitez pas ici.
Malheureusement, non.
Du haut de l'escalier de l'INALCO, deux siècles d'histoire vous contemplent, Marjorie Bertin. C'est une vieille bâtisse pleine de fantômes.
Oui, et vous ne croyez pas si bien dire, Pascal, Pierre Lénard m'a même montré un passage secret. Mais pour les élèves d'aujourd'hui, en chair et en os, toute une partie a été rénovée. Il y a un grand auditorium tout neuf qui peut accueillir les événements culturels organisés par l'INALCO. Il y en a beaucoup, hein, près de 200 par an. Et ça donne sur une très belle cour pavée dans laquelle trône une grande statue que m'a présentée Pierre Lénard.
Donc là, on se retrouve devant la statue de Sylvestre Stassi, donc qui est le premier administrateur après la Révolution de l'INALCO et qui a impulsé en fait l'organisation, on va dire moderne, en tout cas plus contemporaine, de ce qu'allait devenir l'INALCO.
Waouh, alors là, on a un escalier magnifique. Qu'est-ce que c'est ?
C'est l'escalier d'honneur, en fait, qui mène au bureau du président, initialement, qui est aujourd'hui occupé par le vice-président en charge de la recherche, parce que toutes nos activités de recherche sont concentrées ici. Alors, on va retrouver les langues originelles dans cet escalier.
C'est-à-dire ?
Représentées, vous avez le nom tout en haut, hein, et puis vous avez les différents personnages en habits traditionnels qui représentent les langues originelles. On a des fresques, oui, taillées dans la pierre directement et posées sur les quatre frontons de l'escalier. En fait.
Et donc on a un Indien, un Chinois, on imagine.
Un Perse ici, et puis c'est un Turc, un Ottoman.
Saracadorel.
Là, c'est quatre des premières langues enseignées à l'INALCO qui sont représentées ici sous forme humaine.
Puis alors, il y a un mystère, en fait, puisqu'on a un magnifique ciel avec deux croissants entrelacés, dont on n'a jusqu'à aujourd'hui pas trouvé exactement la signification. Alors le croissant, on imagine que c'est l'Orient, effectivement, mais je crois qu'on n'a pas de trace ni dans l'ouvrage du bicentenaire qui a été réalisé en 1995, ni ailleurs, de la signification exacte de ce ciel.
جیر زلفت گرفتم.
Chanson du groupe Atin sur un album qui vient de sortir chez Accords Croisés, persienne d'Iran. Et vous ne le savez peut-être pas, Marjorie, mais en persan, Atin veut dire réuni, mais aussi inédit.
Alors là, non, pas du tout, Pascal.
Et je n'ai pas fait l'Inalco, même si ça m'aurait bien plu. Aujourd'hui, donc, sur RFI, nous plongeons dans la vie quotidienne de l'Inalco, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, où 103 langues sont actuellement enseignées. Mais qui enseigne, Marjorie ?
Alors, il y a deux grandes catégories d'enseignants. Il y a d'une part des maîtres de conférences et des professeurs qui sont recrutés sur concours, exactement comme pour l'université, en fait. Et d'autre part, les maîtres de langue, donc qui eux sont là pour l'apprentissage, pour la pratique de la langue avec les étudiants, et qui souvent, traditionnellement, sont des natifs locaux venus exprès en France pour apprendre leur langue à l'Inalco.
Donc j'imagine que c'est le gratin, comme l'on dit, les meilleurs, mais est-ce que les meilleurs sont tous à Paris ?
Oh, soyons modestes quand même.
Soyons chauvins.
Sûrement. Et on peut apprendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues, y compris celle des Esquimaux.
Le projet initial était de former en fait des soignants du nord canadien, des soignants anglophones, donc des médecins, des infirmières, du personnel de santé, qui intervenaient avec ces populations, qui parlaient bien sûr un anglais, pas forcément dans lequel ils se sentaient totalement à l'aise, mais surtout l'inuktitut, leur langue ancestrale. Donc l'idée, c'était de créer un vecteur linguistique pour que la compréhension entre le patient et le soignant soit meilleure.
Ça, c'était en quelle année ?
Ça, c'était il y a maintenant 8 ans à peu près.
Et on continue d'apprendre l'inuktitut.
Et on continue. Et vous pouvez bien comprendre que ces soignants du nord canadien, donc évidemment c'est un accord avec une université canadienne, eh bien ils ne peuvent pas venir en France pour apprendre la langue. Donc l'enseignant a développé des moyens de visioconférence pour justement que ces personnels-là, personnels et professionnels, puissent se connecter, assister aux cours, avoir aussi des cours en décalé, puisque ça c'est nécessaire. Et alors on mélange finalement un public qui est à Paris, puisqu'on a des étudiants qui apprennent cette langue en physiquement à Paris, donc dans les amphithéâtres, et ces personnels-là qui sont essaimés dans le nord canadien.
L'INALCO était aux avant-gardes, Marjorie. Il n'a pas attendu le confinement pour généraliser les cours en visio.
Oui, pas du tout. Et si les profs viennent du monde entier pour enseigner, les étudiants aussi. Et particulièrement d'Afrique, Pascal.
Parce qu'on enseigne l'inuktitut, c'est ça, la langue des Esquimaux. Waouh, je l'ai bien descendu.
Bravo.
Mais aussi beaucoup, beaucoup de langues africaines. Donc l'INALCO, c'est du nord au sud, en fait.
Oui, absolument. Alors, pas toutes les langues africaines, puisqu'il y en a des centaines, vous le savez. Mais j'ai rencontré 3 étudiants du continent qui apprennent effectivement des langues d'Afrique.
Mais genre comment ? Trentenaire sérieux ou un peu...
Oh bah, trentenaire passionné, concentré, hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Moi, c'est Siloué Sonflo Lassina. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je prépare un doctorat à l'INALCO sur une langue appelée le kafir. Il s'agit d'une variété de Sénifo, qui est un groupe linguistique qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, au Mali, un peu au Ghana et au Burkina.
Et pourquoi est-ce que vous êtes venu faire votre doctorat ici et pas en Côte d'Ivoire ?
Bon, déjà, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à venir faire ma thèse de doctorat ici. Le premier volet concerne plutôt la renommée de l'INALCO et l'expérience de l'INALCO dans le domaine de l'enseignement des langues et des civilisations. Donc, on voit déjà que pour la renommée, on a plus de 100 langues. Il n'y a aucun établissement qui a un tel nombre de langues à enseigner. Aussi l'expérience, ça fait plus de 200 ans que l'INALCO est dans ce domaine et voilà, il n'y avait pas mieux quoi. Le deuxième volet concerne plutôt l'intérêt que l'INALCO a pour les langues africaines, parce que moi je travaille sur une langue africaine et on voit déjà qu'il y a plusieurs langues africaines qui sont enseignées à l'INALCO et aussi les laboratoires de recherche, disons les équipes de recherche que l'INALCO a mises en place pour faire des recherches sur ces langues et les civilisations. Le troisième volet est que bon, l'INALCO a soutient les chercheurs, cela à travers les sources de financement et tout ça. Et je suis quelqu'un qui a obtenu un contrat doctoral avec l'INALCO en 2019.
Donc ça veut dire que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche qui finance votre thèse de doctorat.
Effectivement, oui.
Et vous alors ?
Je m'appelle Liliane Odieb et je suis doctorante en linguistique à l'INALCO. Je travaille sur la description d'une langue en danger parlée au Cameroun qui s'appelle le Wufi. C'est une langue Grassfield de la famille Bantou.
Pourquoi elle est en danger, cette langue ?
Parce qu'il n'y a pas de documentation sur la langue, il n'y a aucune description, aucun document. Et en plus de cela, en raison de la crise anglophone qui a éclaté en 2016, les populations de cette région-là ont dû s'enfuir pour aller se réfugier dans les différentes villes du pays, les grandes villes du pays et aussi au Nigeria. Et du fait de cette dispersion, la langue est menacée parce que les populations sont obligées de s'adapter au contexte dans lequel ils se sont réfugiés et par conséquent, même la transmission de la langue dans le cercle familial est aussi en danger.
Vous êtes venue du Cameroun exprès pour faire votre thèse ?
Non, je suis en France depuis 10 ans déjà et en fait j'ai fait une licence d'abord au Cameroun à Bouya, au ministère du Bouya, et ensuite j'ai fait une licence en France à Paris 7. Et suite à cela, j'ai fait un master, toujours à Paris 7, un deuxième master à l'INALCO, et puis j'ai continué en doctorat.
Et ça fait combien de temps que vous êtes à l'INALCO maintenant ?
Ça fait 5 ans.
Et vous ?
Bonjour, je m'appelle Sonia Ville, alors je suis en troisième année de licence de Yoruba à l'INALCO. Donc à l'origine, je suis étudiante en histoire afro-brésilienne et je me suis justement intéressée au Yoruba, car je travaille sur les esclaves africains musulmans au Brésil. Au 19e siècle, et la plupart d'entre eux étaient Yoruba. Et j'ai découvert qu'ils utilisaient également l'alphabet arabe pour retranscrire le Yoruba. Donc je sais que des sources de cette nature existent, donc c'est ce qui m'a poussée à faire du Yoruba.
Portrait de groupe de quelques étudiants de l'INALCO. Marjorie, comment on rentre à l'INALCO ? Avec quel diplôme ? Avec un concours ?
Alors très simplement, comme pour l'université en fait, Pascal, hein, il suffit d'avoir le bac. Et puis après, si on a envie de s'inscrire en licence, eh bien on demande à être inscrit en licence à l'INALCO. Mais on peut aussi s'inscrire dans ce qu'on appelle la formation continue. Ça, c'est par exemple vous, typiquement.
Ah moi, ça y est, je redeviens étudiant. Voilà. Quel bonheur, quelle bonne nouvelle.
Si vous avez envie de vous inscrire à l'INALCO, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire dans le cadre de la formation continue, celle qu'on continue tout au long de la vie.
Il y a donc les étudiants, mais aussi les anciens étudiants devenus profs, comme Mona Zurchel, que l'on a entendu tout à l'heure. C'est elle, l'inalcoolique, qui enseigne le Bambara après avoir passé justement sa licence dans les années 90.
Je suis arrivée comme étudiante Erasmus dans le cadre de l'échange européen, au tout début de cet échange européen, normalement pour une seule année. Et quand j'ai découvert l'INALCO, qui avait déjà la réputation qui allait jusqu'en Allemagne, j'ai prolongé d'une année d'abord. Après, j'ai décidé de faire ma maîtrise ici et puis un master enfin dans l'autre système, tout simplement parce que c'était absolument passionnant, c'était la qualité des enseignements, c'était aussi le cadre de Paris qui fait que le Bambara s'entend partout dans la rue et on peut pratiquer directement, le fait qu'on a des enseignants locuteurs natifs, mais aussi des camarades d'études locuteurs natifs. Ce qu'on n'avait pas en Allemagne.
En fait, ça vous a tellement plu que vous avez décidé de rester ici et d'enseigner.
Oui, c'est ça. C'est venu petit à petit. C'était pas une décision, mais on m'a proposé de remplacer quelqu'un dans les cours. Je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, une langue qu'on a appris quand on est adulte, on peut peut-être l'expliquer d'une autre manière et qu'il y a une sorte de complémentarité entre nous, les étrangers, qui peuvent paraître surprenants dans un département dont on n'a pas la couleur de peau ou le nom de famille, mais que ça peut être très complémentaire et intéressant. D'ailleurs, il fallait apprendre en même temps le français que le Bambara, parce que quand je suis arrivée ici, mon niveau de français n'était pas vraiment au point.
Thank you. morale de l'histoire, si je comprends bien Marjorie, le Bambara est la voie royale pour apprendre le français.
Oui, voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. Et puis bon, il y a plein de raisons, hein, français ou pas, pour apprendre une langue étrangère, selon Mona Zoichel.
Pour le département Afrique, les Blancs, entre guillemets, sont passionnés, sont très motivés, ont des raisons d'attache personnelle. Certains viennent parce qu'ils sont intéressés par les arts, par la musique, d'autres parce qu'ils ont des attaches familiales. Un des camarades les plus touchants que j'avais quand j'étais étudiante moi-même, j'avais trouvé ça très beau comme motivation, c'était que sa fille s'était mariée avec un Malien et il voulait pouvoir parler avec les parents, avec sa propre génération.
Mona Zoichel, professeure de Bambara à l'INALCO, et visiblement, il y a des histoires d'amour dans toutes les histoires de langue.
Oui, elles finissent pas toujours mal et tout va bien tant qu'on donne pas sa langue au chat.
La langue au chat, voilà. Merci de me faire cette transition magnifique. Merci Marjorie Bertin pour ce reportage à l'INALCO. Et la langue au chat, eh ben, ça pourrait être, ce n'est pas aujourd'hui, mais ce pourrait être une expression de la puce. On retrouve, c'est mercredi, Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Donner sa langue au chat, c'est déjà fait, même si grâce à vous, on a toujours, toujours réponse à tout. Car il faut le dire, depuis le temps que vous tenez boutique et que vous tenez cette puce à l'oreille, vous savez tout, on ne connaît que vous. Comment on pourrait dire ?
On pourrait dire peut-être que j'ai pignon sur rue, même si ça paraît un petit peu prétentieux, j'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, avoir pignon sur rue, Pascal, eh bien, c'est bien notre expression du jour. Alors, quand on dit de quelqu'un qu'il a pignon sur rue, est-ce que vous savez, Pascal, de quel pignon il s'agit dans cette expression ?
Est-ce que je peux vous dire que vous avez de beaux pignons ?
Bon, c'est bien tenté, mais je ne suis pas certaine que Julien Soulier soit de votre avis. On l'écoute dans quelques instants, mais avant, je donne la parole à trois délicieuses ados qui se sont essayées au jeu des définitions.
Ça veut dire qu'on a une opinion sur quelque chose et que, par exemple, l'autre personne, elle n'a pas la même pensée et elle dit avoir pignon sur rue.
Moi, pignon, ça me fait penser à moignon. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait très mal ou peut-être que c'est quelque chose qui se passe surtout dans la rue, comme les gens qui se font voler, les gens qui se font mal, qui sont des accidents de voiture. Donc peut-être que c'est quelque chose qui se passe surtout dans la rue et qui n'est pas très bien.
Ça me fait penser aux opinions, comme a dit Huel, et... qu'on peut être différent des autres.
Pignon, ça me fait penser à pognon. Et donc, pignon sur rue, et bah peut-être que c'est un objet, au lieu d'être dans les musées, de devoir payer tout ça, et bah peut-être que c'est un objet qui a été exposé dans la rue comme ça et qui a beaucoup de valeur.
C'est par exemple une rue où il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple avec que des palais dans la rue, un peu comme à Versailles.
Alors, Julien Soulier, pignon, bognon, pognon, évidemment, ce qui pose problème dans cette expression, c'est qu'est-ce que c'est que ce fameux pignon ?
Alors, le pignon, il y en a trois en français qui n'ont rien à voir étymologiquement et au point de vue du sens non plus. Vous avez tout d'abord le pignon, les gourmands le savent bien,
de pain.
Donc, qui vient de
la pomme de
Provençal, exactement, la pomme de pin. Donc, il y a la même racine que pain. Ensuite, vous en avez un deuxième que les cyclistes connaissent bien. C'est un dérivé de peigne, hein, ça désigne une roue dentée, donc on trouve sur les vélos, donc là c'est plus pour les sportifs. Et puis le troisième, c'est le nôtre, c'est le pignon qui apparaît au XIIe siècle et qui vient d'un mot latin qui signifie un créneau. Et donc on voit bien, on imagine bien la forme du créneau, hein, donc le pignon au XIIe siècle, ça désigne la partie supérieure d'un mur en haut d'une maison, et plus spécialement quand cette partie en fait est de forme triangulaire, en formant un escalier. Vous savez, comme dans les maisons flamandes, oui, aux Pays-Bas ou dans le Nord, vous avez comme ça des maisons à pignons. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc
quand
c'est
on
le
parle
sommet de la maison qui était en fait le point de rattachement de la poutre.
Pour emménager,
la poutre
déménager.
Principale, oui, de ces maisons, qui était faite en torchis et en bois.
Exactement.
À l'époque.
Et donc en forme d'escalier. Donc c'est ça qu'on désigne par le pignon. Et puis, il se trouve que, à l'époque, au Moyen-Âge ou un peu plus tard, en fait, les maisons les plus pauvres avaient bien un pignon, mais elles avaient un pignon qui ne donnait pas sur une rue. Elles avaient pignon sur cour ou sur ruelle. Et seuls les plus riches, les plus aisés, avaient une maison dont le pignon donnait sur la rue. Donc, on disait de ces gens-là qu'ils avaient pignon sur rue. Et donc, évidemment, on voit l'évolution du sens, hein. C'est-à-dire, à partir du XVIe siècle, eh bien, pignon sur rue s'est employé pour désigner quelqu'un de fortuné. Voilà, un tel bourgeois ou tel noble avait pignon sur rue, ça voulait dire qu'il était opulent.
Donc, avoir pignon sur rue, ça veut dire avoir une certaine notoriété, avoir une bonne situation.
Ça. C'est ça. Alors, au XIXe siècle, ça s'est appliqué aux commerçants dont les magasins étaient renommés et bien situés. Et puis ensuite, ça s'est vraiment élargi au sens de quelqu'un qui bénéficie d'une certaine notoriété dans son domaine. Alors, il y a l'aspect à la fois financier...
Il y a la reconnaissance.
C'est ça. Financière et donc sociale, puisque souvent la reconnaissance sociale passe par la reconnaissance pécuniaire. Et puis, effectivement, on l'a dit plus largement, voilà, peut-être dans son domaine. Donc, ça peut être tout simplement dans un domaine peut-être intellectuel ou, je sais pas, sportif. Hein, c'est pas forcément réservé à la réussite financière et sociale.
En Allemagne, on parle d'une affaire qui marche bien.
Oui, c'est un peu plat, mais pourquoi pas.
En Angleterre, d'une situation qui est confortable. En fait, c'est un petit peu la même chose. En France, on dit ça, j'ai une situation assez confortable.
Oui, c'est ça, exactement, très cher. Oui.
J'aimerais bien pouvoir en dire autant.
Et moi donc.
Et au Liban, alors on parle d'une situation qui est aux loges. Alors là, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que c'est à la vue de tous.
Oui.
On est aux loges, donc
on est bien placé, on se fait
donne
voir.
À voir.
C'est
aussi.
Ça, c'est l'idée de se faire voir et de faire voir sa richesse.
Eh bien, merci Julien Soulier d'être venu me rendre visite. Vous qui avez pignon sur rue, surtout depuis la sortie de votre dernier formidable ouvrage intitulé etc., etc., édité chez First et qui revient sur l'histoire de la langue française. À bientôt pour une prochaine expression. Au revoir.
Merci Lucie, à bientôt.
Merci Lucie et à bientôt pour une nouvelle expression. Vous savez déjà laquelle ?
Eh bien, la prochaine, ce sera la 200e de la puce à l'oreille. Donc, surprise, surprise.
Champagne, champagne. Merci beaucoup, Lucie Bouteloup, de vive voix, Pascal Paradou, programmation, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin, la réalisation. Émission, bien sûr, à réécouter sur RFI.fr, sur l'application Pure Radio et sur Facebook. Vous pouvez liker, aimer, commenter, et etc. À demain.
Vous avez moins de...